Les robots ne crient jamais. Une nouvelle de fiction de Francis Misio, parue dans le magazine PopLab de décembre 2012. Lue et mise en onde par Bernard Fostier.
Je te présente Drama Dame Well.
Souffla Waddle. Tu peux l'appeler Drama 3. Waddle tendit la main vers le commercial de Matsumoto. Le look parfait du commercial pour. Ces types qui laissaient toujours effarés sur le mode de « comment font-ils ?» Drama Deadwell. Je savais que c'était un anagramme d'un des noms supposés d'Edward Ludlam, plus connu sous le nom du général Ned Ludd, le héros collectif et imaginaire des briseurs de métiers à tisser, créateur de chômage et de dégringolade des salaires apparu à Nottingham en 1779. L'histoire des Luddites. Une insurrection ouvrière de plusieurs années, réprimée dans le sang et le bagne. On avait reparlé d'eux à l'occasion de la révélation de l'imposture Pynchon pour les non-entendants supposés de l'auteur culte. Une fuite de chez Penguin Press avait révélé dans la plus parfaite indifférence de la masse qu'il n'avait jamais existé, que c'était un pseudo-collectif comme par exemple l'anti-publicitaire Robert Johnson ou l'italien Wu Ming jadis. Et comme Pynchon s'était déclaré être néoludite, beaucoup ressortant Ned Ludd de l'oubli prétendirent ne pas s'étonner. Drama 3, parce que les 548 anagrammes d'Edward Ludlam ne comptaient que 3 dramas. Parce que cela signifiait, en tout cas, dans le mouvement, du moins localement, nous n'étions pas plus de 548. Drama 3 me serra vigoureusement la main.
Bienvenue.
Il passa une main dans ses cheveux gominés et s'adressa à Waddle.
Tu es sûr de lui ?
J'examinais Waddle avec une nouvelle attention. Ce grand type, au pseudo complet de Waddle la Drum, était un homme au visage banal, mais souriant, du genre être béat devant l'existence consumériste. Il avait tout pour inspirer l'insignifiance dans son survêtement et son suite à capuche. Il faisait bien casual, sain, souriant, intégré. Qui aurait pensé qu'il passait son temps à recruter des membres, épluchant les faits divers et traquant les candidats au ludisme à la sortie des prisons ou dans les tribunaux, à la suite d'affaires de casse de machines? Pour ma part, il m'avait abordé au cimetière quelques jours avant, devant la tombe d'Ève. J'ignorais tout de lui, et surtout pourquoi et comment il en était arrivé là. Avait-il un deuil à faire, comme moi, de ma sœur ? Allait savoir d'où les rébellions, d'où la sédition, le goût de la désobéissance civile ou éthique pouvaient provenir.
Il vient de laisser coller une fortune dans la Seine, il n'a pas bronché.
Drama 3 gloussa, puis d'un signe désigna la porte dans son dos.
C'est bien,
fit-il en souriant. Et une jubilation profonde sembla émaner de lui.
Aujourd'hui, on trouve moins de gens pour lâcher leur objet transitionnel que leur gosse. C'est au deuxième sous-sol. Ça va commencer.
Waddle consulta l'heure sur son tatouage numérique de poignet.
Je ne vous fouille pas,
précisa Drama 3.
L'entrée du hall aurait couiné s'il y avait eu un problème.
Puis il ajouta sibyllin, faisant allusion à une formule célèbre, oubliée depuis un siècle au moins.
La technologie a du bon. Nous les pendrons à leur propre cas.
Une vingtaine de types étaient assis autour d'une vaste table en U dans une salle de réunion impersonnelle. Un nanoprojecteur fixé sur un mince pied était tourné vers le mur blanc et aveugle du fond de la pièce. Waddle et moi nous posâmes sur les chaises les plus proches de l'entrée. En face de nous, une grande femme sèche d'une quarantaine d'années, plutôt belle dans le genre ascétique, présidait debout face à l'assemblée. Ce devait être la lame, aka la lambda Drew, la brigadiste dont m'avait parlé Waddle. Elle dégageait d'emblée l'impression d'être de ces personnalités qui se consument, sans doute une passionnaria ludite. Les participants, tous des hommes entre 20 et 40 ans, nous dévisagèrent et je fis de même à leur endroit. Il y avait de tout, des tribals, des uppers, quelques dinky goofy, des casuals, un pink flamingo, deux crimes à l'écart des autres, sans doute à cause de l'odeur qui dégageait. Toutes les tribus urbaines courantes étaient représentées dans ce pourtant mince échantillon. Tous restaient de marbre. Les visages étaient figés, tendus. Sans doute affichais-je la même expression, quoique je n'en eusse pas conscience. Je comptais que j'étais le 7e casual présent avec Waddle.
« Il est temps, on va commencer !»
fit la lame d'une voix rauque et autoritaire en allumant le nanoproge. Waddle se pencha vers moi.
« C'est la meilleure d'entre nous. Visse ses boucles d'oreilles. Ce sont les anneaux de vagin de Roxy. Tu sais, les robots sexuels, plus radical et féministe, je connais pas. »
Le charisme de la lame crevait vraiment les yeux. J'avais appris que dans les milieux libertaires ou sympathisants ludites, on s'empoignait depuis des années sur la question des robots sexuels, proposés notamment aux handicapés et aux vieillards, en lieu et place d'une forme de, disons, service particulier à la personne, quant à lui, toujours pas entré dans les mœurs, et encore moins après 3 décennies de droite au pouvoir. Le robot sexuel était largement accepté par la population et encouragé par les politiques qu'il avait d'ailleurs fortement taxé dès le début de l'engouement. La prostitution restait un problème, lui, irrésolu depuis la nuit des temps. Les arguments anti-prostitution des néo-féministes, apparus dès la décennie 2020 du retour aux valeurs et à l'hypocrisie bourgeoise, quoique non dénués d'intérêt, étaient revenus sur le tapis. Mais un robot sexuel était un robot, et ça posait question aux libertaires et aux ludites, qui rétorquaient que l'alternative, ça ne pouvait être le robot ou la pute, mais ni l'un ni l'autre, soit une entière intégration sociale du handicap, une reconnaissance restant de la sexualité ou aux besoins de perversion du grand âge, en sus d'un travail à faire sur les mentalités et la perception du corps. Le film projeté par la lame passa durant 2 heures en revue l'histoire de la robotique japonaise. Depuis les automates Karuki Nguyo de l'ère d'Edo à partir de 1600, la fascination japonaise ne s'était jamais tarie. L'Europe des 16e et 17e siècles, qui avait connu le même et parallèle engouement pour les automates avant de s'en détourner, ne se doutait pas que les Japonais les y reconvertiraient 4 siècles plus tard. Fin 20e, début 21e, les grands groupes industriels japonais, avec l'aide d'un programme d'État, l'AIST, malgré la crise financière consécutive aux catastrophes sismiques et nucléaires de mars 2011, avait obstinément poursuivi l'étrange vision de ce peuple qui se savait n'être bientôt plus qu'un immense peuple de vieillards passé l'horizon 2025. Autre preuve que l'énergie et la détermination japonaise n'avaient jamais failli dans l'histoire, le robot était bien plus que leur Godzilla surgissant des abysses de la terreur post-Hiroshima, un mythe qui remontait au plus lointain de leur culture. De l'apparition du mimichien Aibo, tout employé pour tenir compagnie à des personnes âgées, au premier robot humanoïde Maidokun, envoyé sur la Lune avant ceux des USA, qui leur avait fait une définitive publicité planétaire après le bluffant et au look de Power Ranger robot HRP4. Nous fut remis en perspective. Le film, surtout, nous assénait avec force et détail les dessous de la robotique. J'avais déjà pris connaissance de ces arguments dans la presse alternative, mais cela ne laissait pas, là encore, de fasciner négativement, de communiquer une véritable répulsion misonéiste. Comment une conjonction d'intérêts et d'obsessions avait pu mener le Japon à bâtir un paradigme aussi dément que celui du robot ? Le considérable vieillissement de leur population aurait dû logiquement inciter les Japonais, pourtant naturellement moins touchés par la maladie d'Alzheimer, à faire appel à l'immigration, qualifiée ou non, comme main-d'œuvre sur le marché de la dépendance. Mais ça aurait été sans compter sur 2 faits culturels d'ampleur. Le refus de voir augmenter la densité de leur population sur leur territoire saturé et une xénophobie, un refus du gaijin qui lui aussi remontait à loin. Le renouvellement de la population ne s'étant pas effectué lors des décennies précédentes et les vieillards rebutant de s'expatrier dans les nations avoisinantes à faible coût de la vie, le marché de masse du robot domestique permettant d'abaisser le coût d'unité avait été atteint moins de 10 années après l'apparition des premiers robot nurses stupéfiants de réalisme. Un marché préparé depuis 50 ans, il est vrai. Dès lors, il eut des robots pour tout, et pas seulement pour servir le thé, pour le sexe du 3e, 4e ou 5e âge, pour faire vigile ou bodyguard, pour le shopping ou les travaux, pour faire le flic aussi. Le robot japonais, ayant gagné tout le territoire du soleil levant, n'avait plus dès lors qu'à déferler sur l'Europe et les États-Unis. Vu analytiquement, l'ahurissante guerre aux humains programmée qui plus est par eux-mêmes sidérait. L'Europe extrême libérale avait dépassé l'inefficacité des expulsions par charter pour s'entourer une fois les esprits enfin prêts dès 2020, du sud comme à l'est, de ces fameux murs de la honte depuis 3 décennies. Pas d'immigrés chez nous non plus. Les politiques alliées aux grands groupes industriels via des myriades d'entrelacs d'intérêts personnels avaient favorisé l'implantation de Lush Roboting sur le vieux continent. Le flop en 2020 du durable, du bio, du vert, du doux, de l'écolo et tutti quanti, qui avait un peu amusé les masses et les affaires durant quelques temps, avait cédé la place à l'opportun marché du serviteur en inox, en silicone, en fibre de carbone. Relançant un capitalisme dont on disait depuis 2 siècles qu'il était fini, il était aussi plus simple de demander aux gens de s'équiper, pour qu'ils pouvaient, les pauvres n'avaient qu'à eux s'entraider, que de concrétiser toutes les belles promesses de prise en charge collective de la dépendance formulée les décennies précédentes. Lorsque le nanoproche s'éteignit, je songeais avec amertume que le destin d'Ève avait donc été programmé depuis toujours, imparable. Après avoir viré la main-d'œuvre étrangère, toujours plus rabaissé le coût du travail, l'enjeu n'avait même pas consisté à transformer les plus jeunes en esclaves salariés, soumis aux classes vieilles nanties, mais à vendre des saloperies en plus. Des robots. Et pourtant, un chômage qui avoisinait les 26% de la population. Ici, comme au Japon, la jeunesse croupissait sans emploi, sans argent, sans avenir, n'ayant même plus le cruel espoir consolateur de croûter grâce à la domesticité. On était donc bien descendu pique au Moyen-Âge avec le dépeçage systématique des systèmes sociaux qui avaient été menés depuis 30 ans. Le film de la lame était efficace.
Oui, l'ennemi est le robot.
La lame laissa le silence planer, puis reprit la parole.
Je vous épargne en outre les dégâts écologiques, le coût carbone de ces machines. J'imagine que chacun d'entre vous d'ici a des motivations personnelles assez fortes pour s'engager. Et sans doute bien plus forte que de sauver cette foutue planète. Question ?
Personne n'en eut.
On va vous attribuer vos pseudos et les phone big receipt only one. Puis vous attendez qu'on vous contacte. Vous détruisez l'appareil et vous aurez à agir dans les 24 heures, voilà.
Elle effectua une pause, guettant les visages qui s'étaient davantage fermés.
Vous ressortirez d'ici, un par un, toutes les 10 minutes, par derrière et par le hall. On va tirer au sort pour l'ordre.
Se ravisant, la lame, debout, se pencha sur la table laquée, s'appuyant sur les poings. Elle passa 2 rechefs et froidement en revue l'assistance. Instinctivement, je plongeai le regard dans l'échancrure de sa chemise et y repérai 2 jolis seins libres. Mais elle vit mon manège et me foudroya littéralement de ses yeux gris. Je baissai les miens sous la violence de son expression.
Inutile de dire que si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est parce qu'on a pris des précautions et on ne s'est pas contenté que vous Google l'ixez. Veillez à ne pas faire le moindre écart. Je veux dire, bien sûr, contre nous. Souvenez-vous, le général Ladd n'a jamais fait de cadeau. Et presque 250 ans après, il a une vengeance à assouvir envers les traîtres et les responsables des déportations et des condamnations de notre rébellion. Dans ce pays, on a connu les canuts, briseurs de métiers à tissier jacquard, c'était un dérivé de l'udite. Il est donc temps de remettre ça. L'enjeu est majeur, souvenez-vous, accorder sa confiance au robot, à la machine. Mais plus jamais à l'humain, c'est la fin de notre civilisation. Détruire le robot, c'est détricoter le filet dans lequel nous sommes pris.
Elle se croisa les bras, martiale.
Ensuite, une précision. Vous démerderez seul. Vous n'aurez ni aide ni formation. Je vous suggère simplement d'aller traîner sur Freenet. Et enfin, un dernier conseil. Pas de sang. De l'huile, du câble arraché, des rotules pétées, des mémoires grillées, mais jamais de sang, c'est la base.
« Je ressortis par le hall, mon Big Phone en poche, après avoir attendu mon tour pendant une heure. Waddle était encore plus bas dans la salle. Sur le trottoir, une vieille peau à bijoux était escortée par un droïde nain, Alsok, un de ces bodyguards de shopping tels qu'on en voyait de plus en plus dans les quartiers chics. Elle lorgnait à travers la vitrine de Matsumoto avec un sourire d'envie et de fascination. Elle ne savait pas ce qui se tramait. Elle ne savait pas que je m'appelais désormais Howard Muddell, aka Mudd. Et que bientôt peut-être, je viendrais tout péter chez elle.
C'était « Les robots ne crient jamais », une fiction de Francis Misio, lue et mise en onde par Bernard Faustier. Vous avez pu entendre dans cet épisode et dans l'ordre quelques musiques publiées sous licence Creative Commons. Il y avait la musique sombre du collectif Drone Suite Drone, collectif nantais, avec deux pièces Litanie des Ombres et quelques extraits de Con Legno. Le musicien Lakenois 13 avec Bar Analogue et Tragic de Stop. Il y avait aussi Matthew Stone avec son titre Once Upon Two Times, disponible sur la compil Nectar 2017 sur archive.org. Et ne pas oublier de vous citer la musique qui compose le générique de cette fiction, faite par Sébastien Giltis, qui est autrichien et qui offre ses œuvres sur SoundCloud.